BFM Business, BFM Bourse, les pros des cryptos.
Parce que l'avenir est l'endroit où l'on passera tous, absolument tous, le restant de nos jours. Eh bien, on parle de crypto-monnaie aussi. La blockchain contient une fraction de notre avenir. Les pros des cryptos, chaque vendredi aux alentours de 16h35, 16h40, avec Vincent Bois, toujours avec nous, depuis IG. Claire Balva, bonjour Claire.
Bonjour.
Co-fondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto pour KPMG France. Et bien sûr, en visio avec nous, comme chaque vendredi, il nous est fidèle et on le remercie. Owen Simonin, bonjour Owen. Alias Asher et sa chaîne qui cartonne, plus de 350 000 abonnés à sa chaîne YouTube Asher avec un H au début. Merci à tous les trois d'être présents à ce rendez-vous juste avant le week-end. On va démarrer peut-être par justement un peu de potentiel technique. Vincent, vous êtes toujours en ligne avec nous. On a vu des risques ressurgir sur le marché action cette semaine. Est-ce que ces risques pourraient à vos yeux éventuellement entraîner une baisse sur le marché des cryptos si le marché action venait à retrouver une volatilité durable et un sens éventuellement baissier en deuxième partie d'année? Est-ce que vous pensez que les cryptos en seraient affectés?
Alors oui, selon mon point de vue, en effet, les crypto-monnaies, il y a beaucoup de théories sur la notion de valeur refuge qui a été évoquée de nombreuses fois, mais pendant cette pandémie et même pendant les baisses que l'on a eues, on a vu que les cryptos, finalement, n'avaient pour le moment, en tout cas, pas prouvé ce potentiel de valeur refuge et donc étaient plutôt... Il n'y a également pas d'utilité sur la monnaie, en tout cas pour le moment, et donc ça reste, selon moi, un actif plus spéculatif. Et donc si on avait des risques sur les marchés qui se matérialisaient un peu plus du fait justement de ces risques du variant Delta, on pourrait avoir cet actif spéculatif qu'est pour moi les crypto-monnaies et le Bitcoin, être entraîné par cette baisse sur les marchés financiers et les investisseurs, que ce soit les investisseurs crypto ou les investisseurs actions et marchés disons classiques, pourraient être plutôt tirés vers des actifs plus valeur refuge, et donc une baisse sur le marché actions pourrait également entraîner une forte baisse sur le marché des crypto-monnaies, et notamment le Bitcoin.
Alors vous savez qu'on adore chercher des paradoxes sur les marchés, que ce soit sur les marchés actions, les bourses, mais aussi sur le marché des cryptos. Et tant qu'à faire, Vincent, la baisse actuelle de la volatilité sur le Bitcoin, est-ce qu'à vos yeux, elle peut être annonciatrice, paradoxalement, d'un fort mouvement à court terme?
Alors oui, en effet, on voit une baisse de la volatilité. Donc c'est vrai qu'on a eu une forte baisse en allant jusqu'à 30 000, voire jusqu'à 29 000 dollars. Et on a eu des tentatives de rebond à plusieurs reprises depuis lors. Et ces rebonds sont de moins en moins importants. Et donc, on a une forte baisse de cette volatilité entre les points bas et les points hauts. Et donc, cela pourrait amener justement un fort mouvement qui, pour le moment, est plutôt tiré vers le bas, puisqu'on n'a pas eu encore de validation d'une tentative de rebond important, même si les 30 000 dollars semblent être un support plutôt pertinent pour le moment. On voit que le mouvement est plutôt tiré vers le bas et cette baisse de volatilité actuellement devrait, selon moi, entraîner un fort mouvement. Donc, pas forcément vers le bas, voilà, ma perspective est plutôt tirée vers le bas, mais plutôt simplement s'attendre à un mouvement important sur le marché des crypto-monnaies. En tout cas, ce que l'on surveille, c'est le Bitcoin. Et donc, cette baisse pourrait amener justement de la volatilité à un fort mouvement à court terme.
Bon, on va suivre tout ça. Le Bitcoin qui cote actuellement un peu moins de 34 000 dollars, 33 500 dollars. Et on rappelle à tous ceux qui nous suivent, comme chaque vendredi, que lorsqu'on parle crypto, on parle évidemment de diversification, vraiment ultra diversification, bien sûr, de portefeuille. Il faut qu'on parle de, alors évidemment, leur potentiel à ces crypto-monnaies. Vous êtes avec nous pour ça, Vincent, mais aussi de leur adoption peu à peu dans l'économie par les différents acteurs financiers. Visa, Owen, Visa indique que les clients des cartes bleues Visa ont dépensé plus d'un milliard d'euros en crypto-monnaies pour différents achats. Et il y a également désormais des cartes compatibles avec de la crypto-monnaie qui sont émises par certaines entreprises. Comment tout cela fonctionne-t-il?
Alors, c'est assez particulier dans le sens où il y a trois façons de faire accepter les crypto-monnaies et de faire en sorte que les gens les utilisent. La première façon, c'est d'expliquer à tout le monde comment ça marche. C'est très laborieux et ça demande énormément d'énergie et ça demande surtout du temps. La deuxième façon, c'est d'éduquer les commerçants. de leur donner des solutions pour pouvoir accepter les crypto-monnaies, les échanger ensuite contre de l'euro, du dollar ou une autre monnaie fiat pour leur permettre d'accepter cette monnaie, tout simplement. C'est encore une fois laborieux, il faut développer des solutions techniques pour les commerçants, simplifier tout le côté réception, émission de factures et la toute dernière étape qui est uniquement réservée à ceux qui en ont les moyens, c'est d'émettre carrément une carte ou un système financier qui permet de recevoir des crypto-monnaies et de proposer un change instantané. C'est ce qui est arrivé à la plupart des grosses plateformes. On a eu Coinbase, on a eu Binance, on a eu Crypto.com, Wirex à la base, qui sont des entités qui, elles, vont permettre à leurs clients d'ouvrir un compte, de déposer de la crypto-monnaie et grâce à une carte Visa et Mastercard, parce que Visa et Mastercard le veulent bien, bien entendu, on va pouvoir faire un paiement Visa et la compensation de ce paiement Visa va être réalisée par l'entreprise qui va prélever non pas des euros sur le compte de son client, mais de la crypto-monnaie avec une petite commission. Et c'est comme ça qu'on peut, avec une carte de crédit, dépenser des crypto-monnaies à travers n'importe quel système qui accepte Visa et Mastercard, soit à peu près tous les systèmes, même s'ils ne sont pas équipés nativement d'un logiciel permettant d'accepter les crypto-monnaies.
Oui, cet univers qui continue de se constituer et ces cartes dont vous nous parlez, qui favorisent l'adoption des crypto-monnaies par un public de plus en plus large en donnant l'accès à tout le monde. Sans limite, Claire, il n'y a aucune limite d'utilisation malgré les risques. Quand on pense crypto, on pense éventuellement fraude, blanchiment.
Non, alors en fait,
à tort hein, peut-être, mais voilà, c'est une question.
Il y a effectivement, alors il y a des limites, je dirais. La première limite, Owen parlait de petites commissions. C'est vrai qu'il y a quand même des frais qui sont pas neutres pour utiliser ces cartes bleues, donc c'est plus cher que si vous payez en cash, par exemple. Et puis l'autre limite, pour moi, c'est la fiscalité, en tout cas telle qu'elle est conçue en France. En France, vous êtes imposé sur vos plus-values. C'est-à-dire que si vous passez en euros, si vous repassez de la crypto au système traditionnel, vous êtes imposé à 30% sur la plus-value que vous effectuez. Et donc là, Owen l'a bien résumé, ce qui se passe quand on utilise ces cartes bleues, c'est qu'on passe de la crypto à l'euro, et donc on est censé être imposé sur la plus-value à hauteur de 30%. Ce qui veut dire que demain, vous achetez, je sais pas, un ordinateur avec cette carte bleue-là, et bien si en fait, il y a une plus-value par rapport à ce que vous déteniez en crypto-monnaie quand vous arrivez en euros, vous êtes censé être imposé à 30%. Et ça, c'est très compliqué, en fait, à mettre en place niveau fiscalité, et on se rend bien compte ici qu'on est un peu à la limite du système, où on a une fiscalité qui est faite pour des actifs, un peu comme pour des actions, mais que les cryptos, ce sont des actifs protéiformes, donc ça peut être à la fois un actif d'investissement, mais ça peut aussi être une monnaie. Et donc là, on est un peu entre deux eaux, hein. C'est un peu comme si on payait avec des actions quelque part, donc on est soumis à la fiscalité, alors qu'en fait, on utilise les cryptos comme monnaie, tout simplement. Et donc ici, il va y avoir tout un questionnement, à mon sens, à avoir autour de la fiscalité de ces nouveaux actifs.
Oui, l'agilité fiscale, la réactivité fiscale, on arrive, disiez-vous, aux limites du système. Le risque, c'est que le système veuille que ces limites perdurent et que l'usage, justement, reste du coup limité dans la mesure où la fiscalité peine à suivre.
Bien sûr, mais la fiscalité telle qu'elle est conçue, si jamais ces cartes bleues continuent à être largement utilisées, le législateur va vite se rendre compte que cette fiscalité-là, elle est en fait assez inapplicable.
Oui, surtout si les choses se développent par ailleurs dans le monde. Bon, on va continuer de parler de tout cela, mais Visa qui fait un pas supplémentaire hein, vers l'adoption, en tout cas d'un public de plus en plus large de ces crypto-monnaies. On va continuer de parler de cette finance décentralisée qu'on appelle dans le jargon quoi, DeFi.
La DeFi ou DeFi.
La DeFi, ah oui, le DeFi, bon. Et en particulier, on va parler d'un protocole de prêt qui s'appelle AAVE, je dis bien.
Oui, bon. Oui, on peut dire AAV ou AVE. Ah,
bon, voilà, je suis toujours du côté ringard de la prononciation, moi. Ils ont annoncé l'ouverture de leur plateforme aux institutionnels, AVE, donc, et ça pourrait peut-être changer la vie. C'est quoi AVE, précisément?
Alors, AVE, c'est une application, effectivement, de finance décentralisée, donc qui fonctionne avec des crypto-monnaies. Et AVE, effectivement, alors c'est une application qu'on dit non custodiale, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas une entreprise qui va posséder la liquidité, mais tout va être géré par des smart contracts, donc ces fameux programmes qu'on va mettre dans la blockchain. Et l'application va permettre effectivement d'emprunter de la crypto ou de déposer de la crypto pour la prêter à autrui. Et donc l'idée, c'est qu'on peut par exemple déposer du stablecoin et avoir du rendement, avoir des intérêts parce qu'on prête sa crypto-monnaie. Et donc, ça va permettre d'aller chercher du rendement avec son portefeuille ou bien d'aller emprunter, par exemple, du stablecoin en déposant en collatéral du bitcoin ou des actifs plutôt illiquides. On pourrait imaginer à terme déposer des tokens qui valent, je sais pas, des parts d'immeubles, par exemple, et derrière emprunter de l'argent grâce à cela. Et tout est géré algorithmiquement, c'est-à-dire que le taux d'intérêt que vous récupérez peut évoluer en fonction du besoin d'avoir plus de liquidités ou s'il y a trop de liquidité, tout simplement, le taux va baisser.
Oui, et ça pourrait être une pierre de plus pour changer la vie alors. Voilà, c'est très technique, mais à terme, ça pourrait à la fin, au bout de chaîne, changer la vie.
On peut imaginer qu'à terme, AVE devienne une sorte de back-end pour les banques lorsque celles-ci doivent prêter de l'argent. Alors ça accélère considérablement les délais hein, par rapport au système traditionnel. Tous ces prêts, tous ces emprunts se passent en quelques secondes.
Enfin, quand même, on va revenir quand même au basique. En plus, les fans de crypto nous rappellent bien que la finance décentralisée, son but c'est justement de décentraliser les choses et de proposer les mêmes services que la finance classique sans besoin d'un tiers de confiance. Du coup, pourquoi ouvrir cette offre dont vous nous parlez à l'instant aux institutionnels, Owen ?
Eh bien déjà parce qu'elle commence à être mûre. Le protocole AAV est un protocole qui gère aujourd'hui 17 milliards de dollars de TVL, donc le volume total sur la plateforme. Ce qui veut donc dire qu'il a été longuement audité, qu'il y a des hackers et des personnes qui ont essayé de le craquer pour essayer d'en tirer profit sans y arriver. Et de la même façon, ce protocole a, si je dis pas de bêtises, 10% du montant total en fonds d'assurance. Donc comme une petite assurance, un autre smart contract qui détient à peu près 2 milliards d'actifs pour assurer une quelconque potentielle faille. Donc, on commence à avoir des solutions de finances décentralisées qui commencent à mûrir et qui commencent à être intéressantes. Ensuite, pourquoi s'adresser aux institutionnels ? Déjà, parce que les institutionnels suivent des demandes qui émanent de leurs clients. Ce sont leurs clients qui, à l'origine, la plupart du temps, demandent ce genre de solution. Ensuite, pour des raisons de compétitivité. L'objectif étant de proposer un rendement quand on est un fonds d'investissement. Si de nouvelles solutions DeFi sont plus compétitives que certaines solutions traditionnelles, pourquoi ne pas se tourner vers ces nouvelles solutions annexes, quitte à n'y mettre qu'une petite partie du montant sous gestion de ce fonds. Et ensuite, tout ne doit pas être décentralisé. C'est l'une des valeurs des crypto-monnaies, c'est vrai. Mais pour le coup, le concept de la finance décentralisée, c'est qu'elle est décentralisée, certes, mais ça permet d'avoir des solutions financières. Quelqu'un qui se doit d'obtenir une solution financière comme un emprunt pour subvenir à ses besoins peut très bien faire un benchmark de tout ce qui existe et pourquoi pas se tourner vers la finance décentralisée si c'est elle qui propose les meilleurs termes et conditions. Donc pour le coup, c'est assez intéressant de se rendre compte qu'il y a aujourd'hui des solutions de finance décentralisée qui vont petit à petit venir marcher sur les pieds sur des solutions de financement traditionnelles simplement parce qu'elles deviennent pertinentes. On s'éloigne de plus en plus du proof of concept, on commence à avoir de vraies solutions de DeFi utiles et qui vont devenir utilisées.
Et AVE qui annonce donc l'ouverture de sa plateforme aux institutionnels, certains malgré tout, Owen, y verront un pacte avec le diable. Non, on veut s'affranchir des tiers de confiance et on pactise malgré tout avec eux. Les fans de crypto, ceux du début, ils vont pas faire la tête ?
Alors, pas particulièrement, parce qu'au contraire, c'est même une victoire de voir des acteurs centralisés qui ont l'habitude d'utiliser des outils centralisés se tourner aujourd'hui vers la DeFi. Donc, je pense vraiment qu'au contraire, ce serait une news qui serait bien accueillie par cette communauté. En effet, beaucoup de gens sont contre la centralisation absolue. Mais la plupart des personnes qui utilisent la blockchain n'ont rien contre la centralisation. Ils veulent juste nuancer et dire qu'on a besoin également, en plus de ces solutions centralisées, de décentralisation. Les gens disent que quand on ne détient pas sa propre clé privée, on ne détient pas sa crypto-monnaie. En gros, si vous avez un compte sur une plateforme et que c'est cette plateforme qui détient en votre nom de la crypto-monnaie, vous ne la détenez pas vraiment. Et c'est vrai, c'est pas comme si vous aviez votre crypto-monnaie sur votre mot de passe et que vous êtes la seule personne à pouvoir accéder à ces fonds. En attendant, utiliser certains fonds sur des plateformes d'échange pour être agile et pour pouvoir prendre des décisions rapidement, bien que ce soit des solutions centralisées, ça n'a rien de mal. C'est qu'une question de diversification finalement. Faut pas mettre ses œufs dans le même panier et faut surtout utiliser différents outils. Moi-même, qui adore la décentralisation et qui détient beaucoup de crypto-monnaies, j'en stocke une grande partie sur mes propres clés privées, mais une petite partie sur différentes plateformes pour pouvoir être agile et pour pouvoir utiliser leurs différents services. Ce n'est qu'une question de mesure finalement.
Ça s'appelle la maturité. Voilà, la maturation d'un écosystème. La maturité, elle nous vient d'un jeune homme de 22 ans à peine, un Owen qui vous parle et qui fait cette pédagogie aujourd'hui à l'antenne sur BFM Business de ces nouveaux écosystèmes qui se constituent avec vous, Claire. Pour cette nouvelle offre, d'ailleurs, Claire, alors il dit AVE, lui, vous dites AVE. Bon, AVE, on va dire, a noué un partenariat avec Fireblocks qui gère la custody crypto. En fait, ils détiennent la crypto-monnaie au nom de leurs clients, pour résumer les choses. On commence à voir, en effet, que ces services sont salués, qu'ils contribuent à l'adoption de la crypto-monnaie par monsieur et madame tout le monde. Cette technique, elle va prendre encore de l'importance, cette technique custody ?
Oui, alors la custody, c'est déjà une très grosse activité. On voit par exemple qu'un acteur comme Coinbase Custody détient à peu près 10% du total des cryptos en circulation. Donc ce sont déjà des acteurs qui sont énormes. Et on voit qu'il y a un deal flow très important dans ce secteur-là, avec BitGo qui a été racheté par Galaxy, avec Curve qui a été racheté par PayPal, avec Fireblocks qui a levé des fonds aussi récemment. Donc on voit que c'est un marché qui est en forte croissance et que ces acteurs finalement sont des acteurs structurés, structurants pour l'ensemble du marché des cryptos. Et effectivement, Owen l'a dit, la décentralisation, elle a aussi ses limites. Et je ne pense pas que demain, tout le monde stockera ses propres crypto-monnaies avec sa clé privée. Il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, ont déjà du mal à sécuriser leur boîte mail. Donc, je ne pense pas que demain, tout le monde va sécuriser par lui-même ses fonds crypto. Ça, c'est une utopie. Et donc, forcément, les acteurs qui proposent des solutions de custody ont beaucoup d'avenir.
D'accord, sauf qu'on a vu récemment une association obscure en Bourgogne, justement, détenir... Voilà, RR Crypto, exactement. Bon, on leur fait de la pub en même temps, c'est pas bien. Mais... Bon, oui, c'est une arnaque. Enfin, les gens se sont fait arnaquer manifestement. Et en effet, ils disaient détenir les cryptos au nom de leurs clients. Est-ce que cette technique, le custody, dont vous nous disiez qu'il est amené à monter encore beaucoup en puissance, est-ce que cette technique-là, dont usait et abusait par exemple cette association, ne met pas en risque malgré tout la sécurité des cryptos que les gens croient détenir, qu'une association ou qu'une organisation peut dire détenir en leur nom, et en réalité, à la fin, il y a parfois des surprises.
Alors, les arnaques, ça existe. Ça n'existe pas que dans la crypto. Hein. Il y a des arnaques sur plein d'autres sujets. Il y a des arnaques sur l'investissement dans des diamants, dans des places de parking.
Hein, oui,
voilà, c'est
sûr,
pas du tout spécifique aux cryptos. Effectivement, aujourd'hui, on est sur un secteur nouveau. Donc, effectivement, il y a des acteurs qui parfois sont peu scrupuleux. Mais on voit, en tout cas en France, que la réglementation est quand même assez poussée. Et donc, il y a des moyens aujourd'hui de savoir si un acteur est sécurisé ou non. Il y a une liste à l'AMF des acteurs labellisés PSAN, donc prestataires de services en actifs numériques. Donc tout ça est quand même assez bien encadré. Et aujourd'hui, en faisant quelques recherches, voilà, vous pouvez assez vite savoir quels acteurs de custody, quels acteurs crypto sont sérieux.
Owen, là-dessus ?
Il y a énormément de process. Il y a deux moyens de se sécuriser quand on détient des fonds, que ce soit de la crypto-monnaie ou non. La sécurité et l'assurance, d'accord ? Par exemple, notre société, qui est régulée en France, elle a tout misé sur la sécurité pour une seule et simple raison. Plus de 100 refus d'assurance. La crypto-monnaie, c'est nouveau. C'est une forme que les assureurs ne maîtrisent pas, avec des risques qu'ils ne maîtrisent pas non plus. Il est donc impossible de s'assurer, ou alors très difficile, car très peu d'acteurs à l'échelle mondiale ont réussi à trouver ce fameux graal de la sécurité des entreprises qui détiennent de la crypto-monnaie pour compte de tiers, des custodians, comme on les appelle, qui ont des solutions custodianes. Donc, là où il faut comprendre, c'est qu'il y a aujourd'hui toujours un risque à confier sa crypto-monnaie à une plateforme. On doit vraiment s'assurer qu'elle est sécurisée, et globalement, c'est vrai que la régulation est un gage de crédibilité, car la plupart des sociétés régulées ont des process qui ont été audités par des acteurs externes, tout simplement.
Eh bien voilà, un peu de pédagogie pour nos auditeurs et téléspectateurs. Il nous reste 2-3 minutes pour continuer d'explorer cet univers de la blockchain, des cryptos également. Alors on est dans un univers assez technologique, technophile, parfois geek, mais de plus en plus financier également, et peut-être de plus en plus économique aussi à terme. Et là, vous allez nous parler, Owen, d'une prestation de serment, la prestation de serment du nouveau président d'Israël. Quel rapport avec la blockchain dont on est en train de parler depuis un quart d'heure, la prestation de serment du nouveau président en Israël?
Ah bah alors justement, c'est sur ce segment technologique que moi j'interviens, car ce serment sera également accompagné d'un NFT, une base donc technologique liée à la blockchain,
okay,
pour signifier non seulement la prise du coup de responsabilité de ce nouveau et qui est le sixième président d'Israël, mais également le fait que c'est un nouveau support, une nouvelle façon peut-être pour annoncer comme une nouvelle histoire et une nouvelle façon de faire les choses. Mais ce serment sera également accompagné d'un NFT qui sera confié au président, une volonté par le Parlement israélien, de montrer ce changement technologique et le fait d'aller vers l'avant et d'utiliser désormais des nouvelles méthodes.
Attendez, les NFT, donc ce sont des tokens, ce sont des jetons sur la blockchain, et ces jetons, et on en a beaucoup parlé ces derniers mois tous ensemble, ils permettent parfois et de plus en plus de détenir par exemple des œuvres d'art dans la blockchain, ce qui sécurise aussi quelque part l'investissement, de plus en plus d'immobilier aussi, on parle d'immobilier tokenisé. Vous nous dites qu'on peut aussi tokeniser la prestation de serment du président d'un État comme l'État d'Israël.
Tout à fait. Alors évidemment, ça veut pas dire qu'il y aura des droits et que ce NFT apportera des droits lui aussi. Mais en attendant, c'est une transmission. C'est pas simplement le serment physique qui lui sera également signé par ce nouveau président, mais également une transmission technologique, comme pour annoncer que ce nouveau serment est une nouvelle base technologique. Et vraiment, la façon dont ça a été voté et décidé par le Parlement, ça a été le fait de montrer qu'on allait utiliser des nouvelles méthodes et qu'on se tournait vers le futur, vers l'avenir, qui est un petit peu le slogan que vous nous rappelez chaque semaine quand on parle de blockchain et de crypto-monnaie.
Ouais, parce que l'avenir, c'est là où on passera tous le restant de nos jours. On a cette tradition de dire que lorsque quelque chose est figé, inscrit dans la Constitution ou une prestation de serment, par exemple, que c'est gravé dans le marbre, on dira peut-être à l'avenir que c'est gravé dans la blockchain. Claire.
Oui, alors je pense que effectivement ce NFT, il faut plus le voir comme une expérimentation ou comme un symbole, comme le disait Owen, que comme la simple volonté d'avoir un NFT pour derrière le revendre, par exemple, à d'autres personnes. Les NFT aujourd'hui, alors théoriquement, on peut tout mettre sous forme de NFT, c'est pas pour ça que c'est pertinent du tout. Les NFT, c'est intéressant effectivement pour des objets qui ont une valeur, pour des objets uniques, souvent pour des objets de collection, ça peut être des objets d'art physiques ou numériques. On parlait il y a quelques semaines de Sorare, par exemple, avec ces cartes de joueurs de foot qui sont sous forme de NFT. Moi, je vois aussi tout un champ d'applications dans le domaine des jeux vidéo, qui est un domaine qui est nativement numérique et où souvent, aujourd'hui, les jeux sont gratuits. Et puis, une fois qu'on est dans le jeu, on va aller acheter, je ne sais pas, des outils pour son personnage. Je pense aux propriétés qu'on peut détenir dans les métaverses, vous savez, ces fameux jeux vidéo qui fonctionnent entièrement sur blockchain. Et là, effectivement, les NFT permettent de créer des marchés secondaires, par exemple, entre les joueurs, permettent aussi d'ouvrir la communauté du jeu vidéo à d'autres joueurs qui créeraient leur propre sous-jeu vidéo, quelque part. Donc ça permet vraiment d'ouvrir l'écosystème numérique de toutes ces solutions.
Bon, mais le menu sushi en token, c'est pas pour demain, non?
Je pense pas que ce soit très pertinent. Après, on peut voir de tout, mais je suis pas convaincue.
Bon, je sais pas s'il est meilleur en token d'ailleurs que pas en token. Merci beaucoup à tous les trois. En tout cas, les pros des cryptos, ces nouvelles tendances et ces apports au quotidien que nous offre l'univers de la blockchain et des crypto-monnaies. Merci Claire Balva qui nous accompagne chaque vendredi, cofondatrice de Blockchain Partner avec Alexandre Savchenko, directrice blockchain et crypto chez KPMG France. Bon retour, bon week-end Claire. Un grand merci à Owen aussi depuis sa Moselle adorée. Owen Simonin alias Asher et sa chaîne YouTube Asher avec un H. Vincent Bois nous accompagne également. Merci Vincent pour IG. Et ce rendez-vous des pros des cryptos, vous pouvez le retrouver tout au long du week-end, bien sûr, en podcast sur nos plateformes. Bon retour, bonne soirée à tous les trois. On vous rappelle que le Bitcoin vaut actuellement 33 500 $ et qu'on parle là bien de diversification, ultra diversification. Owen le disait, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, surtout pas quand on parle de crypto. Le CAC 40, on va s'y rebrancher aussi au marché actions. Il progresse aujourd'hui, le CAC, de plus de 2%, 6 531 points, le club à suivre dans un instant. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.